Les Montalbanais en savent quelque chose. Depuis le 15 février, la place nationale est fermée au public. Le sous-sol est actuellement fouillé. Il en est de même à Maubourguet, dans les Hautes-Pyrénées, à Saverdin, en Ariège et dans beaucoup d'autres sites de la région. Ces différents travaux sont menés par un organisme que je vous propose de découvrir ce matin. Il s'agit de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, mieux connu sous l'acronyme INRAP. Bonjour Christophe Ruki.
Bonjour.
Vous êtes directeur délégué scientifique et technique à l'INRAP sur la région. C'est vous qui allez être notre guide ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et alors d'abord, il y a ce P qui m'interroge, INRAP pour préventive. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la notion d'archéologie préventive? Qu'est-ce qu'on entend par là?
Oui, je vous remercie tout d'abord pour m'avoir invité. Alors, il y a deux archéologies. Il y a l'archéologie programmée. C'est l'archéologie en fait de recherche où les sites sont choisis pour avoir des réponses à des questions scientifiques. Par exemple, comment vivaient les hommes à la période néolithique, comment ils étaient enterrés à la période romaine. Mm-hmm. L'archéologie préventive est une archéologie en fait. C'est une archéologie de réparation qui va anticiper tous les projets d'aménagement qui vont porter atteinte au sous-sol et aux sites archéologiques.
D'accord, donc c'est en prévention, donc préventive, en prévention avant de construire quelque chose. J'ai découvert en préparant cet entretien que la nécessité de protéger le patrimoine architectural a été ressentie assez tardivement, hein.
Alors, oui, la législation définitive est encore toujours évolutive de l'archéologie, qui est un métier très jeune, professionnalisé très récemment. A mis du temps à s'installer, mais depuis les années 40 en fait, il existe une loi sur les autorisations de fouilles et les découvertes fortuites, et la législation s'est construite petit à petit au fur et à mesure des découvertes, et on s'est aperçu que certains grands travaux pouvaient porter atteinte aux vestiges archéologiques. Les grands chantiers sont les chantiers qui, on va dire, éponymes et qui ont lancé l'archéologie préventive, sont les chantiers du Louvre et les chantiers à Marseille notamment, qui ont permis notamment de faire, on va dire, émerger cette obligation suite à l'aménagement très lourd qu'on a aujourd'hui du territoire. Donc, au départ, on était dans le cadre d'une archéologie de sauvetage, c'est-à-dire que la législation existait depuis les années 70, parce que dans le code de l'urbanisme, il existait un article sur les permis de travaux qui pouvaient être annulés dans le cas de vestiges archéologiques. Donc tout ça était encore, on va dire, soumis à discussion avec les aménageurs et les services de l'État, de la DRAC. Mais en 2001, une loi sur l'archéologie préventive a créé l'Institut national des recherches en archéologie préventive qui permet de détecter, qui a pour mission le service public de détecter, de fouiller, de rechercher et de valoriser la recherche scientifique auprès du public et de la communauté scientifique.
Alors sans raviver un souvenir douloureux, il y a une affaire, celle qu'on appelait l'affaire de Rodez, qui a été, je crois, un ferment de la création de l'INRAP, en tout cas qui en a précipité la création. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus?
Oui, c'est sur un aménagement d'un site antique connu. La législation n'étant pas assez solide, l'aménageur a pu commencer ses travaux et il a fallu la bataille de la communauté scientifique pour que une partie du site soit tout de même fouillée. Et ça a généré justement ce questionnement définitif qui est arrivé à la loi de 2001 sur l'archéologie préventive.
Alors,
Mais c'est une histoire globale où, de toute façon, c'est une construction permanente, l'archéologie. Encore aujourd'hui, la législation évolue d'année en année.
Et c'est tant mieux. Alors, on va revenir à notre exemple initial. Revenons, si vous voulez bien, sur la place nationale à Montauban ou sur n'importe quel autre site où vous intervenez. Vous êtes un peu partout, là, en ce moment, en Occitanie, je crois, hein.
Oui, et de toute façon, si vous voulez, on va parler des deux étapes de nos travaux, de cette loi sur la archéologie préventive. Il y a une première étape qui s'appelle le diagnostic. C'est l'étape où nous allons détecter, pour essayer de caractériser les fouilles, les sites archéologiques présents dans les travaux. Ces diagnostics ont lieu sous la houlette et la prescription des services de la DRAC, du service régional de l'archéologie, qui tient à jour une carte archéologique de la France. Et donc nous intervenons sur chaque site archéologique connu, répertorié sur cette carte, ou alors sur des sites d'ampleur ou de surface supérieure à 3 hectares où il n'y a pas de site connu, mais ça nous permet de faire évoluer la recherche justement et de pas s'enfermer dans des sites déjà connus.
Alors on va reprendre quand même le processus depuis le départ. Qui est-ce qui vous saisit? À quel moment vous intervenez? Et surtout, c'est pour des travaux publics ou même chez un particulier? Comment ça se passe?
Alors c'est pour tout type de travaux d'aménagement, public ou privé, la DRAC est saisie du dossier.
La direction régionale des affaires culturelles,
tout à fait. Service régional de l'archéologie, qui émet une prescription de diagnostic
ouais.
pour détecter avant travaux la présence de vestiges ou non. L'INRAP ou...
Ça, c'est la procédure classique.
C'est la procédure classique qui fonctionne aujourd'hui.
D'accord.
Dans le cas où des vestiges archéologiques étaient découverts, nous rendons un rapport d'expertise et l'État choisit de prescrire ou non une fouille en fonction de l'intérêt archéologique des vestiges. Dans ce cas-là, c'est la deuxième étape qui s'enclenche, c'est une fouille, c'est-à-dire que c'est le principe du casseur-payeur, et donc c'est le maître d'ouvrage du bâtiment, du projet qui est en cours, qui finance la fouille archéologique.
Alors, ce qu'il faut préciser aussi, hein, c'est que l'INRAP donc intervient à ce moment-là, intervient au moment du diagnostic. Et puis après, donc l'État, vous m'avez dit en préparant cet entretien, lance un appel d'offres. Il y a l'INRAP, mais il y a d'autres...
C'est pas l'État, tout à fait.
Ouais.
Depuis 2003, je ne suis pas allé jusqu'au bout, on y arrive. Depuis 2003, la loi de l'archéologie préventive a évolué et elle est soumise à la concurrence. C'est-à-dire que des organismes privés de fouilles sont agréés par l'État pour faire des fouilles, tout simplement. Donc, c'est le maître d'ouvrage qui est chargé de l'appel d'offres pour choisir son opérateur en archéologie préventive. Dans un cahier des charges qui est construit par l'État et qui contrôle toute la réalisation de l'opération de fouille tout au long de la chaîne opératoire qui va jusqu'au rendu du rapport de fouille qui permet ensuite de faire des publications et de faire avancer la recherche.
Alors donc, s'il y a quelque chose, on va se mettre dans cette disposition-là, c'est celle qui doit être la plus exaltante, j'imagine, pour les archéologues de l'INRAP. S'il y a quelque chose, comme c'est le cas à Montauban, on fouille comment et dans quelle perspective?
Alors, on fouille comment? On fouille avec des engins, en tout cas des méthodes actuelles, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup des engins mécaniques, on est proche de l'utilisation d'outils du bâtiment. On commence par des décapages de surface, on enlève les couches qui sont déjà très perturbées de surface, et ensuite, ce sont des fouilles mixtes, manuelles et mécaniques aussi s'il faut, quand on a de grands volumes, pour répondre en fait aux questions que l'on se pose. Il faut voir que la fouille archéologique est un questionnement scientifique. À chaque fois qu'on va fouiller à un endroit, qu'on va enlever des sédiments de la terre, on va essayer de répondre à une question. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Qu'est-ce que les hommes ont fait? Et c'est une chaîne comme ça de découverte au fur et à mesure de la fouille qui détruit au fur et à mesure les couches, bien sûr, archéologiques, puisque c'est le principe. Pour comprendre une fouille archéologique, on part du haut, donc du plus récent jusqu'au plus ancien, parce que c'est une accumulation stratigraphique des couches, et on découvre l'histoire du site en avançant.
On découvre l'histoire du site, et alors... Admettons, allez, imaginons, soyons fous, qu'à Montauban, on découvre une ville engloutie absolument exceptionnelle, là où on avait prévu de construire la place. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, une ville engloutie, c'est pas possible.
Parce bon, que alors autre chose, quelque chose d'englouti.
Sur Montauban, le diagnostic nous permet d'avoir une visibilité des vestiges archéologiques pour la fouille future. Donc on découvre assez rarement, même si ça peut arriver, puisque le diagnostic ne reconnaît que 10% de la surface en définitive. On fait des sondages mécaniques et on ne reconnaît que 10% de la surface du site. Donc on a une idée
de ce qu'on va trouver.
Ce qui permet à l'État de prescrire derrière une fouille. Dans le cas où on pourrait trouver des vestiges particuliers, parce que le diagnostic n'a pas pu être réalisé exactement comme on voulait, du fait, comme il est anticipé par rapport au projet, on peut avoir des contraintes de surface qui ne nous permettent pas d'aller voir sur toute la surface. C'est ce qui s'est passé par exemple à Cahors, où on a découvert l'amphithéâtre romain sous le parking. Et on a dû, l'État a discuté donc avec l'aménageur pour qu'il préserve un espace pour conserver les vestiges de ce théâtre qui sont aujourd'hui visibles quand on descend dans le parking.
Donc
c'est un cas qui est extrêmement rare.
Donc on peut décider de...
L'État.
C'est l'État qui décide dans ces cas-là de...
La conservation, tout à fait.
La conservation.
C'est l'État qui garde la maîtrise de la conservation du patrimoine. L'INRAP est un opérateur public, comme d'autres opérateurs privés, des fouilles archéologiques.
Ouais. Et alors ça veut dire que dans notre cas de Montauban, mais c'est également le cas, on en a parlé à Savardin, c'est en ce moment le cas également à Maubourguet, et puis dans bien d'autres sites de la région, on peut faire des fouilles. Il peut y avoir des vestiges dans le sous-sol, ce qui ne va pas empêcher pour autant la réalisation de travaux prévus en surface. On est d'accord, hein?
À toute façon, c'est le principe de la loi sur l'archéologie préventive. Elle doit concilier le développement du territoire et la conservation du patrimoine. Quand on entend conservation du patrimoine, c'est conservation de la mémoire dans la très grande majorité des cas. Puisque, comme je vous l'ai dit, les archéologues détruisent, ils enregistrent, ils photographient. Maintenant, il y a des modélisations 3D qui sont possibles. Et ensuite, l'aménagement peut se faire. C'est l'équilibre que le législateur a trouvé dans le cadre de l'archéologie.
Et ça, c'est satisfaisant pour l'archéologue que vous êtes de construire par-dessus, de bétonner au-dessus de monuments enfouis dans le sous-sol?
Eh bien, écoutez, c'est l'équilibre de notre métier. On sait que, et c'est la force aussi de notre implication, c'est-à-dire qu'on sait que ce que l'on fouille et ce que l'on trouve sera détruit. Donc, ça nous motive pour être le plus exemplaire possible dans notre travail.
Qu'est-ce qui pourra être remonté? Est-ce qu'il y a du mobilier qui, lui, est remonté?
Alors, dans le cadre de Montauban, ce qu'on peut trouver, c'est du. Alors, on est sur la place publique de la ville de Montauban depuis l'époque médiévale, place publique qui était plus petite, au centre de laquelle se trouvait un puits. Et donc, on a retrouvé les niveaux de circulation, les niveaux de sol de l'époque, qui étaient des niveaux damés, de cailloux et de terre battue, qui se sont accumulés au cours du temps. Et donc, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est ce que les gens ont perdu en général. Donc, on peut retrouver des monnaies, on peut retrouver de la céramique. Donc, tous ces éléments sont prélevés, bien sûr, étudiés en laboratoire, daté, et ça nous permet de caractériser la vie quotidienne du lieu sur lequel on se trouve.
Et ça, cette partie de la mémoire va être enregistrée et permettre de faire évoluer, c'est ce que vous nous disiez en début d'entretien, une
Oui.
archéologie, une connaissance en mouvement et toujours collaborative en quelque sorte.
Exactement, c'est une chaîne de la connaissance, d'accumulation de connaissances qui ne s'arrête jamais. Le mobilier, ensuite, une fois qu'il est issu des fouilles étudiées, il est remis à l'État dans les centres de conservation et d'études et à la disposition de tous les chercheurs qui peuvent le consulter dans le cadre d'études spécifiques, notamment ça peut être des études programmées, des études régionales sur les activités, les échanges, le commerce à différentes périodes.
Et alors, à quel moment on décide, là, comme c'est le cas à Montauban, les Montalbanais vont croire que j'ai un problème avec eux, mais à quel moment on décide d'arrêter? Ça y est, on a fait le tour de la question, on arrête, on peut y aller.
C'est ce que je vous disais, il y a un cahier des charges de l'État avec un appel d'offres, et donc il y a des moyens et des délais qui sont maintenant intégrés dans les calendriers de travaux. Donc on sait qu'on a par exemple, comme à Montauban, nous avons 8 semaines pour travailler, et bien nous avons 8 semaines pour travailler. Mais l'archéologue sait qu'il doit répondre à toutes les questions du cahier des charges en 8 semaines.
Vous avez dit tout à l'heure, en parlant que l'INRAP, on l'a compris, hein, c'est un institut public, il y a des opérateurs privés qui font à peu près le même travail que vous. Dans ce partage de connaissances, comment est-ce que du coup ça s'articule les uns avec les autres?
Mais tous les archéologues se retrouvent dans des structures de recherche qui sont en général des unités mixtes de recherche dans lesquelles travaillent des chercheurs d'université, du CNRS et de toutes les collectivités aussi territoriales qui existent, qui peuvent aussi avoir la mission de détection de diagnostic, collectivité territoriale, une ville, une agglomération, un département, et les archéologues de l'INRAP et les archéologues
Des privés et
des privés.
chacun met au pot commun l'ensemble de ses
Ah,
découvertes.
oui, bien sûr, c'est la règle. De toute façon, ce sont des informations qui sont publiques. Et maintenant, qui sont de plus en plus disponibles en lien avec les lois sur l'obligation de diffusion des données numériques publiques. Donc, une fois que ces données sont publiées et écrites, elles peuvent être utilisées par tout le monde dès le moment où on cite les sources. Voilà. Et on respecte la propriété intellectuelle des données.
Eh bien, merci beaucoup, Christophe Réqui, pour ces explications passionnantes, hein, sur votre travail à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologie préventive,
Préventive.
d'archéologie préventive. On a mieux compris ce que signifiait l'archéologie préventive grâce à vous. Des fouilles sont en cours un peu partout dans la région. On connaît mieux maintenant le processus. Et puis l'équilibre fragile, hein, qu'il y a à trouver entre vous l'avez dit, hein, la nécessité d'avancer dans la connaissance et puis celle de préserver le patrimoine. Merci à vous.
Merci, je renvoie vos auditeurs au site internet inrap.fr
Et bien, vous faites
où vous
bien.
aurez une grande partie de ressources documentaires à ce sujet.
Et bien, bravo de le faire. Merci à vous.
Au revoir.